Bienvenue au balado Les Petits Caractères, un espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spear, j'ai l'immense honneur d'être votre animatrice pour cette nouvelle saison et je suis accompagnée de Sylvie de Bellefeuille, avocate, conseillère budgétaire et juridique pour Options Consommateurs. Sylvie, bonjour!
Bonjour Marianne!
Le premier sujet de l'heure, c'est les droits des passagers aériens. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Il y a des nouveautés?
Oui, il y a des nouveautés qui vont bientôt entrer en vigueur, mais aussi parce qu'on en a parlé beaucoup cet été, ça a été la cohue dans les aéroports, donc on trouvait que c'était important de démêler un peu tout ça.
Ouais, ma coloc travaille dans les aéroports, puis j'en ai entendu parler. Moi, ça fait juste 2 ans que je les évite, là.
Ben en fait, il y a différentes situations qu'on va regarder ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il y a plusieurs lois, plusieurs règlements qui peuvent s'appliquer, mais le règlement principal, c'est ce qu'on appelle dans le fond communément la Charte des voyageurs, qui est dans le fond un règlement fédéral. Son nom officiel, c'est le Règlement sur la protection des passagers aériens.
Puis son petit nom, c'est la Charte des voyageurs.
Exactement. C'est un règlement qui, somme toute, est assez récent. Ça a été adopté en 2019, donc juste avant la pandémie. Ensuite est arrivé 2020 avec son lot d'annulations de vol et de problèmes de remboursement. Et c'est là qu'on a constaté que, dans le fond, cette charte-là avait un certain nombre de trous. Et c'est ça qui est venu, dans le fond, les nouveautés, c'est qu'on va justement essayer de colmater certaines de ces brèches-là qui n'étaient pas bien.
Avant 2019, il n'existait pas de charte des voyageurs.
Non, il n'y en avait pas. Ce qui était prévu, dans le fond, c'était quand même des règles très générales. Okay. On parle beaucoup de la Charte des voyageurs, mais dans le fond, c'est pas la seule loi qui peut s'appliquer. Il y a aussi des lois provinciales qui peuvent venir entrer en compte. Donc, ce qu'on va parler vraiment, c'est vraiment plus de ce qui est prévu à la Charte des voyageurs. Il y a aussi un autre élément qui est super important qui va, dans le fond, prévoir nos droits, c'est le contrat qu'on a avec les compagnies aériennes, ce qu'on appelle le tarif. C'est le contrat, contrat souvent de plusieurs centaines de pages que, on va être honnête, personne lit, là.
OK. Puis, par exemple, là, que j'ai un problème avec mon vol, est-ce que je peux vous appeler? C'est vers qui que je vais pour, mettons, faire appliquer la Charte des voyageurs?
Bien, dans le fond, chez Options Consommateurs, nous, ce qu'on va faire, c'est vous donner l'information. Mais on n'a pas, nous, le pouvoir de forcer un transporteur à te rembourser si, par exemple, tu as droit à une indemnité
vos
ou quoi que ce soit.
Vos lignes vont exploser après la sortie de ce balado-là, dans le fond, mais c'est bon.
Donc, dans le fond, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous informer puis vous diriger vers les bonnes procédures à faire selon le contexte.
Parfait. Puis c'est quoi qu'il y avait de nouveau dans la Charte des voyageurs? C'est quoi qu'on s'est rendu compte qui fonctionnait pas, les dernières mises à jour?
Bien, dans le fond, la dernière mise à jour, faut peut-être se remettre un peu dans le contexte de la pandémie. De nombreux vols ont été annulés pour les raisons qu'on connaît tous. Le problème, c'est que la plupart des transporteurs aériens ont dit, selon le règlement, on n'a pas l'obligation de rembourser les gens parce que c'est une situation qui est hors de notre contrôle.
On voit beaucoup ça dans les contrats souvent. Je pense à mon contrat d'assurance. Là, souvent, c'est comme cas de force majeure qu'on peut voir.
Exactement. Ce qui était vrai quand on regarde le règlement n'interdit pas le remboursement. C'est juste qu'il ne le prévoyait pas de façon précise. Par contre, il y a d'autres lois.
Il n'y avait pas prévu une pandémie mondiale. Une pandémie, c'est mondial.
quand le règlement a été fait, ce qu'on avait en tête comme événement, c'était plutôt les situations. Le premier événement qu'il y avait en tête, c'est la fameuse situation où les gens avaient été coincés sur le tarmac de l'aéroport avec Air Transat. Je ne sais pas si tu te souviens un peu de cet événement-là. Il y avait des gens qui avaient été restés, qui étaient restés des heures sur le tarmac. Il n'y avait pas eu beaucoup de services qui avait été offert dans les avions.
D'aération.
Donc, il y a certains droits qui ont été prévus dans la Charte des voyageurs pour éviter ça. D'autres situations qu'on voyait, notamment pour les annulations de vol, c'est des situations qui sont généralement temporaires. Par exemple, un ouragan ou un volcan qui va faire éruption puis qui va faire en sorte qu'on ne peut pas voyager. On l'avait vu avec le fameux volcan en Islande avec le nom imprononçable. Donc, on visait des situations qui étaient, somme toute, temporaires. Maintenant, le problème avec la pandémie, c'est que ça a pris un peu tout le monde par surprise et c'est une situation qui a perduré pendant littéralement des années. Là. On n'a pas encore complètement sorti de ça.
Ça a passé comme un clignement d'yeux pour pas mal de gens parce qu'on est juste resté chez nous, mais en effet, c'est des années.
Donc, ça a été long et à ce moment-là, ben tout ce que disaient les transporteurs aériens, c'est-à-dire, ben nous, le règlement ne prévoit pas d'obligation de rembourser. On ne peut pas vous rediriger parce que tous les aéroports, toutes les frontières sont à toute fin pratique fermées. Alors, ben tant pis pour vous. C'était un peu ça qui était le problème, où on disait, ben on va vous offrir un rabais, pas un rabais, mais un coupon voyage. Mmh. On va dire, ben vous allez pouvoir éventuellement voyager lorsque ce sera possible de le faire. Ouais. Au départ, même, il y avait des dates limites. On prévoyait que le coupon devait être réutilisé dans un an. Là, on était en mois de mars, puis on sait très bien qu'en mois de mars 2021, les voyages n'étaient pas encore pleinement revenus, il y avait encore beaucoup de frontières fermées, donc ça plaisait pas à bien des gens. Mmh. Et avec la pandémie, ben il y a bien des gens qui avaient besoin de leur argent pour faire plein d'autres choses.
Absolument.
Il a fallu l'intervention du gouvernement.
Non, je sais, c'est des moments difficiles. On fait des blagues, mais c'est des moments difficiles.
Oui, effectivement. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui disaient, ben moi, je suis pas sûr après la pandémie que je vais vouloir revoyager. Il y a des questions sanitaires, mais il y a des gens, nous, qui nous appelaient, qui disent, ben moi, je suis retraité, j'ai 70, 75 ans, je sais pas, moi, dans deux ans, est-ce que ma santé va me permettre de voyager? Puis c'est une question qui est tout à fait légitime aussi. Puis il y a des gens qui peuvent juste dire, ben moi, ça me tente plus de voyager. Puis ont le droit aussi.
Ouais.
La nouveauté, dans le fond, c'est justement ça. C'est qu'il y a certaines obligations qui n'étaient pas prévues dans ce règlement-là qui vont entrer en vigueur le 8 septembre. Donc, okay. c'est tout nouveau. Qui permettent, dans le fond...
8 septembre 2022.
2022, okay. Oui, merci de préciser. Mm-hmm. Qui, dans le fond, fait en sorte que si le retard ou l'annulation est causé pour un motif qui est indépendant du contrôle de la compagnie aérienne, ça peut être la météo, ça peut être une pandémie, ça peut être un peu n'importe quoi, ben les gens vont avoir droit, d'une part, à un réacheminement dans un délai de 48 heures.
Okay.
Si c'est pas possible dans un délai de 48 heures, ben là, à ce moment-là, le consommateur, et je dis bien le consommateur, pas la compagnie aérienne, mais le consommateur aura le droit de choisir entre soit un remboursement, soit une nouvelle réservation. Okay. Donc, on vient préciser l'obligation de remboursement.
Mm-hmm. Puis un réacheminement, ça veut dire changer de compagnie aérienne, si... Puis est-ce qu'il faut que ça soit le même vol vers la même destination?
Ben là, le réacheminement, effectivement, normalement, c'est vers la même destination, mais ça peut, si c'est pas possible auprès d'un transporteur, que ce soit auprès d'un autre transporteur. Là, ça va dépendre un peu aussi selon la taille de la compagnie aérienne. Ça, il y a des petites, il y a quand même des petits twists là-dedans. Je veux pas trop rentrer dans les détails.
On parle aujourd'hui, c'est pour mettre la table puis informer les gens, mais comme tu me disais un peu avant qu'on commence, là, en droit, c'est rare que c'est noir ou c'est blanc. Là.
Effectivement. Donc, il y a quand même des fois des petits détails qui vont varier, notamment en fonction de la taille de la compagnie aérienne. Mm. Si tu voyages sur Air Canada, par exemple, ben, c'est pas la même chose que si tu voyages dans une petite compagnie qui n'ont pas les mêmes ressources.
Par exemple.
Exactement. Mm. Donc, qui n'ont pas toujours les mêmes ressources. L'autre chose aussi qui va être intéressante, c'est que ben, quand on parle de remboursement selon le mode de paiement utilisé. Donc, si j'ai payé en argent ou si j'ai payé par carte de crédit, je vais pouvoir être remboursé de cette façon-là, mais on ne pourra pas m'imposer d'avoir un coupon voyage.
OK. Donc, c'est moins très bon
que
à savoir.
Absolument, puis à moins que ça fasse mon affaire. Il y a des gens pour qui voyagent souvent, pour qui ça peut valoir la peine d'avoir un coupon voyage, mais pour les gens qui, par exemple, disent « ben moi, j'ai pas trop envie de voyager avec la même compagnie aérienne ou je préfère avoir mon argent puis faire ce que je veux avec », ben il y aura cette possibilité-là. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui n'était pas prévue au règlement. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Maintenant, quand on dit ça, ça voulait pas dire que les compagnies aériennes n'avaient pas l'obligation de rembourser. Nous, on le dit dès le départ, il y a le règlement, mais il y a d'autres lois qui s'appliquent, notamment au Québec, le Code civil, qui prévoit que dans des cas de force majeure, ben oui, une situation comme un transporteur peut être exempté de son obligation, qui est de, dans le fond, nous déplacer du point A au point B. S'il y a une force majeure qui l'empêche de le faire, ben il peut être exempté de le faire. Mais ce que prévoit la loi, c'est que s'il a reçu de l'argent en échange, ben il doit le rembourser. Et c'est un peu ce que les compagnies aériennes avaient oublié.
Et là, mais en même temps, ça devait être des coûts énormes pour eux. Je veux pas faire l'avocat du diable, là, mais économiquement parlant, s'il avait fallu qu'ils remboursent tout d'un coup, ben ça aurait pu être dramatique, même au niveau de leur valeur, la valeur de leur action en bourse, les actionnaires qui en ont, etc. Mais c'est des eaux difficiles à naviguer.
Oui, Et c'était l'argument qu'avaient les transporteurs aériens pendant la pandémie. Hein. Il y avait beaucoup de violons qui étaient joués en disant « ben si on rembourse tout le monde, on va faire faillite, etc., etc. » Et le gouvernement fédéral a pris beaucoup de temps avant de vraiment imposer le remboursement pour des conditions. Donc, d'une part, il y avait les compagnies aériennes qui disaient « ben si vous voulez qu'on rembourse les consommateurs, aidez-nous financièrement. » Et on s'entend, il y avait déjà de l'aide financière, là, tout ce qui était subvention à l'emploi et tout ça avait déjà été ouvert aux compagnies aériennes, là.
Ouais, c'est vrai. Il y a ça que je trouve difficile de voir, c'est que en tant que consommateur, tu sais, quand on est frustré d'une situation, on veut pas, si c'est l'employé qui est devant nous, les gens qui travaillent dans les aéroports, tu sais, ça va retomber sur eux d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y a une façon en tant que consommateur de se faire entendre d'une autre manière que de crier sur les gens qui travaillent à la place où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on vit une frustration?
C'est vraiment un bon point. Puis quand on pense à ce qui s'est passé avec tout la saga des bagages, par exemple, cet été, il y a beaucoup de gens qui étaient très frustrés de la situation, avec raison. Le problème, comme tu le soulignes, c'est que les employés qui étaient sur le plancher étaient tout aussi dans le problème que les consommateurs, c'était pas de leur faute, puis le problème venait d'en haut, c'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise planification qui était bien au-dessus d'eux.
D'en haut, mais ouais.
Absolument. Donc, dans le fond, je dirais comme consommateur, ben, faut quand même garder en tête que l'employé qu'on a en face de nous, souvent, a les mains liées. Donc, il est fort possible qu'il n'y ait pas toujours les bonnes réponses. Mais à ce moment-là, c'est peut-être de prendre des notes et de porter plainte à un niveau supérieur. Donc, ça peut être au sein de la compagnie aérienne. Et dans le cas des transporteurs aériens, on peut aussi porter plainte à l'Office des transports, qui, lui, est l'organisme fédéral qui est chargé de faire appliquer le règlement. Donc, si une compagnie aérienne est supposée nous rembourser ou est supposée nous offrir une indemnité et ne le fait pas, ben là, on peut porter plainte à l'Office des transports. Donc, c'est pas l'employé sur le plancher qui a le pouvoir de faire ça, là.
Ah, mais c'est très bon à savoir. Je vais le dire à ma collègue. Est-ce qu'il y avait d'autres nouveautés que tu aurais voulu discuter par rapport à la charte? C'est déjà très éclairant jusqu'à date. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vois que dans nos petites notes, tu parles des bagages.
Oui, ben ça, c'est pas des nouveautés, c'est tout simplement ce que prévoit le règlement, parce que on a quand même un certain nombre de droits qui étaient déjà prévus et que malheureusement, souvent, comme consommateur, on sait pas toujours. Puis quand on n'a pas la bonne information, c'est un peu difficile de faire valoir ses droits.
Ben je savais même pas que ça existait, une charte des voyageurs. Moi, je capote, là, à animer l'émission, je vais en apprendre tellement.
Ben, en fait, la plupart des gens l'ignorent, et c'est un peu pour ça aussi qu'on est là, c'est pour aussi donner l'information. Donc, dans le cas des bagages, ben, il faut savoir que, dans le fond, la première obligation du transporteur, ben, c'est de voyager nos bagages aussi. Idéalement, on veut avoir nos bagages qui soient en bon état et qu'ils arrivent en même temps que nous à destination, que ce soit à l'aller ou au retour. Si jamais il y a un problème, donc soit que le bagage est endommagé, soit qu'il est en retard ou qu'il est carrément perdu, ben là, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un certain nombre de droits. D'une part, si les voyages sont, pas les voyages, mais les bagages sont perdus ou sont en retard, ben ça se peut qu'on ait peut-être pas tous les articles nécessaires à destination pour suffire à nos besoins. Alors, faut savoir à ce moment-là qu'on a le droit d'avoir un remboursement pour les achats qu'on va faire pour compenser pour les articles qu'on n'avait pas avec nous. Donc, si on a dû s'acheter une brosse à dents, si on a dû s'acheter une paire de chaussures ou des choses comme ça.
Puis, est-ce qu'il faut les payer avant puis comme envoyer la facture?
Exact. Donc, faut quand même avancer l'argent, mais on peut à ce moment-là demander un remboursement. Alors, faut faire quand même attention parce que si j'achète des chaussures, c'est sûr que si je vais m'acheter des grosses chaussures griffées à gros prix, peut-être qu'on va me dire, ben, c'était peut-être pas le temps, là.
Ouais.
Donc, faut être raisonnable dans nos achats. Mais on peut être remboursé pour les achats raisonnables qu'on va faire en attendant que nos bagages arrivent. Et si jamais ils n'arrivent tout simplement pas, ben là, on va pouvoir demander la valeur de nos bagages jusqu'à concurrence d'un certain montant qui est de 2 300 $.
Mais tu me fais penser, ça veut dire que c'est quand même intelligent de faire une liste de combien notre valise vaut avant de partir? Ben, c'est ce qu'il y a à l'intérieur?
Ben, de se faire une petite liste, de toute façon, bon, ça dépend toujours des voyageurs. Ouais. Moi, j'ai tendance, avant de partir, de me faire moi-même une petite liste pour rien oublier.
C'est vrai,
Mais d'avoir une petite liste, ça peut être une bonne idée.
Ça aussi, c'est une bonne idée. Je le faisais aussi.
Mais sinon, ben, si on veut réclamer, ben là, c'est important de garder nos factures pour pouvoir faire les réclamations.
Puis ça, c'est qui rembourse ça? C'est le transporteur?
Oui, c'est okay. le transporteur
aérien. J'aurais eu tendance à penser à, par exemple, mon assurance voyage ou même ma carte de crédit si j'ai une assurance voyage dessus, mais vraiment, le transporteur, la compagnie aérienne, c'est mon recours.
Bien, en vertu de la charte des voyageurs, oui. Maintenant, c'est possible qu'on aille acheter par ailleurs des assurances. Et si, par ouais. exemple, je sais pas, moi, je suis musicienne dans la vie puis j'ai des appareils de musique très coûteux, des instruments de musique, ben, il est possible que le plafond de 2 300 $ ne soit pas suffisant pour assurer le matériel. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'avoir une assurance à part pour ce genre d'instruments-là. Donc, faut quand même vérifier. Pour s'assurer que l'ensemble, surtout si on voyage avec des objets coûteux, d'avoir une assurance pour couvrir en cas de pépin. Sinon, ben, il faut savoir qu'il y a quand même différents, quand tu as des pépins en cas de vol, il y a quand même un certain nombre de droits qu'on peut avoir. Là où la charte est compliquée, c'est que la nature des droits qu'on a, l'étendue des droits qu'on a diffère selon le motif de la perturbation. Il y a une logique quand même en arrière de ça. C'est-à-dire qu'on veut pas, par exemple, pénaliser une compagnie aérienne pour quelque chose qui est hors de son contrôle, alors que si un vol est annulé parce que le pris une décision commerciale d'annuler le vol parce ouais. que, par exemple, il était pas assez plein, ça, c'est complètement autre chose. Le problème dans tout ça, c'est que c'est très difficile pour le consommateur de s'y retrouver parce que quand un vol est annulé, la seule information qu'il a, c'est ce que le transporteur veut bien lui dire.
Ah oui, OK, et c'est je savais pas.
Et c'est là qu'il est problématique, parce que si, par exemple, un vol est annulé à très brève échéance, à moins de vraiment une courte période, ben la personne peut avoir droit à une indemnité en plus d'un remboursement, alors que si c'est la faute du transporteur, mais si c'est pas sa faute, ben il a droit à un réacheminement, mais n'a pas le droit à une indemnité. Donc, okay. l'étendue des droits varie selon le motif. Ça varie un peu aussi selon la taille du transporteur aérien aussi.
C'est, OK. Non, je comprends.
Donc, ça devient un peu compliqué. Et encore faut-il que l'information soit claire. Ce qu'on a eu cet été, c'est beaucoup de vols qui ont été annulés, parfois pour des raisons qu'on disait hors de contrôle. La pandémie a encore le dos très large. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est en pandémie, là. Mm-hmm. Est-ce qu'une compagnie aérienne est absolument incapable de prévoir qu'il risque d'avoir des employés malades? Je ne sais pas. Donc, il y a tout ça qu'il faut entrer en ligne de compte. Donc, là-dessus...
Comme tu dis, la pandémie, elle a encore le dos large. C'est vraiment ça. C'est dur de mettre la ligne à « c'est hors de notre contrôle » ou « c'est notre responsabilité ».
Exactement. Ouais. Et jusqu'où est-ce que c'est un problème de gestion qui, à ce moment-là, relève de la faute du transporteur et jusqu'où c'est vraiment imprévisible. C'est difficile à ce niveau-là pour le consommateur de s'y retrouver.
Mais je pense qu'en connaissant plus ses droits, on va arriver tranquillement à mettre une ligne à tout ça.
Exactement.
Ben à ce moment-là, moi, je t'avoue que ça fait 2 ans que je suis vraiment stressée de voyager. C'est pas nécessairement quelque chose que ça me tentait de faire, entre autres à cause de tous les vols qui sont annulés et les situations hors de notre contrôle, mais de t'avoir parlé, ça me sécurise un peu. Puis j'ai pas mon passeport encore, je l'ai pas refait faire, fait que sûrement que ça va prendre un moment, mais tu me motives à le faire. Fait que merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous, mais on reste, et tu peux rester avec nous si tu le souhaites, pour une petite capsule de Joanne Leblanc, une de tes collègues, qui est conseillère budgétaire à Options consommateurs.
Ça a été un plaisir, Marianne.
On termine l'épisode d'aujourd'hui avec une capsule sur les conseils budgétaires. On est avec Joanne Leblanc, qui est conseillère budgétaire à Options consommateurs. Bonjour Joanne.
Allô.
Première expérience studio?
Oui, exactement.
C'est bon. Pourquoi une conseillère budgétaire? Pourquoi une consultation budgétaire, en fait?
Ben, une consultation budgétaire, il y a toutes sortes de raisons là, pour lesquelles les gens vont venir nous rencontrer.
Ouais. Moi, j'avoue que ça sonne un peu très en surface comme question, mais tu sais, j'ai tendance à penser juste qu'on va aller à notre banque ou qu'on va faire notre budget, tu sais, tout seul sur la feuille Excel. Je savais pas qu'un titre comme le tien existait. Ben, une aide comme la tienne existait.
C'est sûr que c'est une particularité, je pense, d'options consommateurs et des ACEF qu'il y a à travers le Québec d'offrir ce type de service-là.
ACEF, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, les acronymes?
Association coopérative d'économie familiale.
OK, super. Ça, je le savais pas, mais je savais que c'était un organisme que j'ai vu passer plusieurs fois. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais.
Pas de problème. Pas de problème. Comme je disais, c'est une particularité qu'on offre chez Options Consommateurs. On a 40 ans d'expérience. Je pense que notre objectif, nous, c'est de vouloir aider les consommateurs. Or, le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de pression, on dépense beaucoup et il arrive malheureusement qu'on a de la difficulté à garder notre équilibre dans le budget. Et c'est pour ça qu'on offre des consultations budgétaires pour garder le cap.
Puis c'est qui tes clients en général, sans me nommer de nom bien entendu, mais tu sais, le profil, puis est-ce que c'est des consultations gratuites, payantes?
Les consultations sont gratuites. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on n'a aucun produit à vendre. Mm-hmm. On est vraiment là dans l'intérêt du consommateur. Puis c'est ça, c'est les gens qui vont venir nous voir, c'est vraiment toutes sortes de gens, de toutes les classes sociales, peu importe le revenu, qui vivent toutes sortes de situations. Ça peut être des personnes qui sont de tout âge aussi. Le profil des gens qui viennent nous rencontrer est très, très, très divers et varié.
Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça?
Ah, ça fait un an et demi.
Oui. Puis est-ce que tu vois comme une situation qui revient un peu dans le budget des Québécois? Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel on a clairement de la misère de manière uniforme?
Je pense que c'est la difficulté de regarder la réalité en face.
Ah, c'est tellement bon.
Il y a plusieurs profils là, qu'on va rencontrer, mais tu sais, c'est la difficulté de s'asseoir puis de regarder la réalité puis de s'ajuster en fonction de cette réalité-là. Tu sais, de faire le pont entre voici mes désirs, ce que je veux, ce que j'aimerais vivre et voici ma réalité. Combien je gagne, combien je peux.
Ouais. Puis aussi, juste, moi, ça fait quelques années que je suis en appartement, mais ça fait seulement un an que mon hydro est pas compris dans mon loyer. Puis j'ai fait face un peu à cette réalité-là. Je me dis, ah, ça va être 20-30$ par mois. Hey, j'ai pris un 2 minutes, là.
Là, t'es dans l'apprentissage, là.
Oui, clairement, clairement. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes clients, disons, là, pour s'assurer qu'il y a les bons montants, etc. Est-ce que tu regardes ça avec eux ou c'est eux qui te sortent les chiffres?
Je vais m'ajuster selon les situations. Okay. Ça, c'est clair. Mais tu sais, en fait, il y a 3 types de façons de dépenser. On va soit dépenser avec notre carte débit, soit avec notre carte crédit ou soit en argent comptant. Fait que pour moi, il y a 3 sources d'informations. Il y a le relevé de compte opération, votre relevé de compte parce que vous utilisez votre carte de débit. Il y a le relevé de carte de crédit, si c'est ça que vous utilisez. Puis les petites factures, tu sais, le petit café le matin, les petites dépenses qu'on peut faire avec notre argent comptant. Nous, on recommande de prendre une petite enveloppe, une petite boîte, trouver votre façon de... Puis quand on rentre le soir à la fin de la journée, on ramasse nos petites factures, on les met là, comme ça, à la fin de la semaine ou du mois, selon ce que les gens désirent. Ben, ils peuvent comptabiliser la réalité dans laquelle ils ont vécu.
Puis toi, ta consultation budgétaire, ben, tu dis que tu t'adaptais à chaque situation. Est-ce que ça veut dire que tu fais vraiment pas la même chose avec chaque personne, dans le sens où tu n'as pas comme un plan à suivre, comme on refait ton budget, on se donne des objectifs, ou c'est vraiment plus comme une consultation, on parle, puis on commence à trouver des trucs, puis on va se revoir si jamais on voit qu'il y a un fit, puis qu'il y a quelque chose à faire?
Ça va varier selon les besoins de la personne. C'est sûr qu'on tu sais, il y a des personnes qui vont venir parce que ils ont déjà un objectif précis. Ils vivent une situation d'endettement, ils viennent de changer de situation de vie, puis là ils veulent être sûrs que leur façon de gérer leur truc va être bien adaptée à leur nouvelle réalité. Il y a d'autres personnes que c'est parce qu'ils commencent dans la vie puis ils n'ont jamais fait de budget. Des fois, il y a des personnes qui sont plus âgées puis qui n'ont jamais fait de budget non plus. Tu sais, c'est pour ça que je veux pas relier ça à l'âge. Il y a vraiment
Mais je trouve que c'est un bon point parce que moi, je l'entends beaucoup autour de moi. On aurait dû nous apprendre ça au secondaire, on aurait dû blablabla. Mais nous, on commence à dire ça, mais ça fait des années que, tu sais, cet enseignement-là était pas fait. Puis, bon, je veux pas m'en aller trop dans qu'est-ce que je connais pas non plus, mais tu sais, c'était vraiment très connu que, ben, c'était l'homme qui ramassait l'argent, qui l'apportait à la maison. Puis la femme, ben, elle devait un peu faire le budget, mais elle se faisait dicter aussi où devait aller l'argent, mais on n'était pas au courant des REER, investissement, gestion de la carte de crédit, ces choses-là. Fait que c'est sûr que quand on est en face de des personnes plus âgées, j'imagine que... Est-ce que tu ressens une gêne de leur part?
Ben, il y a plusieurs choses hein, dans ce que tu viens de me dire, là. Si je prends juste la dernière question... en général, non. Quand la personne arrive avec moi, généralement... Elle a pris la décision, il y a un cheminement qui est déjà amorcé, elle a pris la décision de regarder les choses puis de prendre action. Moi, je reviens un petit peu à l'autre question que t'as
ben oui.
posée avant, puis qui fait le pont aussi avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'on a peu d'éducation financière. Puis lorsqu'on va faire une consultation budgétaire, on retourne à la base. On va apprendre à faire un bilan. On va apprendre à faire un budget. Puis on va apprendre à faire le budget comme il faut en y intégrant toutes les dépenses qui doivent être comptabilisées. Parce qu'on peut faire des budgets et tourner les coins ronds sans entrer certaines dépenses qu'on sait qu'on va faire, mais qu'on pense pas à comptabiliser parce qu'elles sont plus occasionnelles, mais faut les prévoir. Puis, alors, quand on fait un budget, ce qui est le plus utile de cet outil-là, c'est la capacité d'anticipation qu'on développe en faisant notre budget. Puis c'est en anticipant qu'on peut prévenir les coûts, puis qu'on peut changer des choses, prendre des décisions au bon moment pour s'assurer de garder le cap vers un équilibre budgétaire.
Puis, développer.
Pas juste l'équilibre, tu sais, c'est que quand on maîtrise bien, on peut se donner la possibilité de réaliser des projets aussi. T'sais, au lieu de tirer par en arrière, t'sais, puis à payer de l'endettement, rembourser des cartes de crédit, ben on peut modifier cette situation-là, puis après ça, avoir des rêves qu'on est capable de concrétiser.
Mais développer sa capacité d'adaptation, je trouve que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puis qui donne espoir aussi. Quand on commence à faire son budget, des fois, c'est pas ce qui sonne... le plus inspirationnel, je sais pas si ça se dit en français, mais clairement, je trouve que cette phrase-là, elle est. Avoir développé sa capacité.
Ben en fait, tu sais, les gens souvent, par rapport aux questions financières, vont souvent avoir un réflexe de jouer à l'autruche. Tu sais, on regarde pas, puis il y a de l'argent dans le compte, j'en profite, je dépense, puis oups, il y en a plus, OK, on se serre la ceinture, sans trop savoir ce qui rentre, ce qui sort du compte. Et à un moment donné, quand on fonctionne comme ça, sans prendre le temps de s'arrêter, de conscientiser tout ce qu'on dépense, puis qu'est-ce qu'on fait, ben il peut arriver, surtout si on vit une situation d'endettement qui commence à gagner en importance, qu'on va ressentir énormément d'angoisse, puis de crainte. Et on a toutes sortes de façons de réagir face à cette anxiété-là. Mais plus on la laisse grandir, plus elle va gagner en importance, puis plus certaines personnes vont figer, puis moins ils vont avoir le réflexe de regarder. Alors que, qu'est-ce qui provoque l'angoisse? C'est le sentiment d'impuissance face à une situation. Le fait de s'arrêter, puis de prendre le temps de regarder qu'est-ce que je fais concrètement, là, comme acte, comme choix. Puis après ça, ben, t'es capable de développer un plan. T'es capable de te donner une direction. Et quand on sait où est-ce qu'on s'en va, on diminue ce sentiment d'impuissance-là. Par conséquent, on va vivre moins d'angoisse. On va savoir où est-ce qu'on s'en va. Et ça se reflète aussi dans le restant de notre vie, dans d'autres secteurs de notre vie. Là. Ça peut avoir beaucoup d'impact.
Ah, c'est clair. Je parlais avec des gars qui sont un peu dans le domaine de l'éducation financière, là, puis ils disaient, on parle beaucoup de la santé physique, de la santé mentale, mais je trouve qu'on parle pas assez de la santé financière. Puis dis-moi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que les trois sont vraiment codépendantes. Là. T'sais, pour moi-même, les moments où ça allait moins bien physiquement, je sais que mon compte de banque, il prenait une petite claque. Puis quand ça allait moins bien mentalement aussi, on a plus tendance à vouloir éviter nos problèmes en dépensant, en whatever. Fait que je sais pas ce que t'en penses en tant que conseillère budgétaire.
Ben moi, en fait, je restais... Le premier constat que j'ai fait, c'est que quand je fais une consultation budgétaire avec quelqu'un, je vois énormément de choses sur la personne, dans le sens où on va agir avec nos finances comme on agit avec nous-mêmes. T'sais? Si on prend le temps de conscientiser qu'est-ce qu'on fait, on se fait des plans, on se donne une direction, il y a fort à parier que dans sa vie, on risque d'être comme ça aussi. On est quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter, qui prend le temps de se donner des objectifs, de décortiquer comment je vais atteindre cet objectif-là. Ça risque d'être un peu la même chose dans tes finances. Fait que, tu sais, il y a un lien direct entre ta façon d'être et la façon dont tu gères tes finances personnelles. Fait que, évidemment, si ça va un petit peu moins bien, puis que là, pour toutes sortes de raisons, puis ça peut arriver à n'importe qui, ben évidemment que ça se peut que ça se reflète aussi dans tes finances personnelles. C'est pour ça aussi que les gens qui vont venir chez Options Consommateur, ils peuvent être assurés d'une chose. On les reçoit toujours sans jugement. On sait que c'est un acte qui est déjà très courageux que de venir... c'est pas facile, là. Tu vas aller étaler ta vie devant quelqu'un, tu connais pas cette personne-là, puis là, on sait que la personne qui va nous recevoir, elle va voir nos petits travers. « Ouais, je paye pas toutes mes factures à temps des fois. » Puis on peut découvrir autre chose aussi, tu sais. Ben les gens chez Options Consommateurs qui reçoivent les autres consultants budgétaires, ce sont tous des personnes qui vont vous accueillir sans jugement, avec beaucoup de respect, puis on va vous prendre comme vous êtes.
Ben merci énormément, Joanne. C'était très éclairant.
Ça m'a fait plaisir.
C'est ce qui conclut le premier épisode de la nouvelle saison des Petits Caractères. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on va avoir un nouvel épisode à chaque 2 semaines. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre sur les réseaux Options Conso sur Instagram, j'ai un petit blanc, pardon, ou Options Consommateurs sur Facebook. Merci, à la prochaine!